Junique.
Marc Diquet, c'est comme la crème en deux biscuits secs.
Oh. 26, les trois gars autour de la table, on a écouté Les Intouchables avec un petit peu de retard. C'est une petite série de reportages sur le monde du sport professionnel qui est diffusée à Radio-Canada.
Oui, dont la prochaine, Femme derrière les joueurs, c'est demain à 20h sur Ici Télé. Mais pour en parler, l'animatrice, l'intervieweur de cette excellente série-là, vraiment, quand je dis excellent, c'est le mot, là, Marie-Claude Savard. Marie-Claude, bonjour.
Allô?
Wow! Premièrement, quel travail incroyable! J'imagine, Marie-Claude, pour toi, que peux-tu dire que c'est ce que tu as fait de plus engageant comme projet depuis le début de ta carrière? Parce que il y a des choses incroyables là-dedans. Là.
Ben, je te dirais que c'est intouchable, c'est ce que j'ai fait de plus engageant dans le monde du sport. Parce que tu sais, dans ma vie personnelle, j'avais écrit des livres où je m'ouvrais puis j'étais très transparente. J'avais pas eu la chance de le faire comme journaliste de sport parce que c'est un milieu qui est tellement hermétique, qui est tellement fermé. Puis c'était un désir que j'avais depuis longtemps de retourner puis d'aller poser des questions, parfois impertinentes, ou en tout cas certainement des questions qu'on pose pas habituellement. Puis moi, je me sentais apte à demander à ces joueurs-là ou aux dirigeants de hockey de faire un peu ce que moi j'avais fait dans ma vie personnelle, tu sais, dans le sens où j'arrivais quand même avec une réputation puis une façon de faire. Donc, ça m'a peut-être permis d'ouvrir un peu certaines portes, là. Ça n'a pas été facile, ça a pris un crowbar, mais souvent, là. Mais donc, oui, c'est certainement, dans termes de journalisme, c'est le truc le plus engagé puis le plus engageant que j'ai fait.
Parce que les images, sans vendre de punch, là, l'émission sur la drogue avec Bob Pernault, qui est l'agent de Mike Ribeiro, écoute, c'est tellement franc comme discussion, comme image, que j'ai presque senti, pas une détresse, mais Bob Pernault semble tellement s'en faire pour son client Ribeiro, ça transperce l'écran, là.
Absolument. Puis, tu sais, nous, le pari qu'on a fait, toute l'équipe de cette émission-là, c'est de vraiment filmer les coulisses, la démarche, tout ce qui se passe à côté, les appels, la répétition qu'on place à Mike Ribeiro qui répond pas au téléphone, les inquiétudes de ses projetés dans le documentaire. Bob Pernault a accepté qu'on le montre à l'écran. Ça n'a pas été le cas des enfants de Mike ou de sa conjointe. T'sais, ce qu'on est capable de montrer à l'écran, c'est peut-être, je dirais, un 60% de ce qu'on a tourné en bout de ligne. T'sais, ça a pris beaucoup, puis c'est pas tout le monde après ça qui a voulu qu'on montre tout. Mais Bob, il a été hyper honnête, hyper franc. C'est une vie complète à s'en faire pour son joueur vedette. Et finalement, Mike Ribeiro a pris l'avion de Nashville et est arrivé à Montréal pour faire l'entrevue. On avait ciblé ça le matin parce qu'on s'est dit c'est probablement le moment où il est le plus frais, entre guillemets, là, tu sais, et dispo. Et finalement, il a probablement que c'est l'entrevue la plus en profondeur qu'il a accordée depuis le début de sa carrière de joueur. Là. Ça fait 5 ans qu'il est à la retraite.
Parce que tu as rencontré des personnages quand même. Bon, le terme intimidant est peut-être un peu fort, mais Donald Fear de l'Association des joueurs, Serge Chavard. Bon, Donald Fear, il n'a pas parlé tant que ça, mais Serge Chavard a dit des choses immensément intéressantes sur l'argent. Est-ce que ça a été dur de réunir ces gens-là?
Oui, très difficile. Dans le cas de Serge Chavard, c'est quand même un gars qui est très ouvert. C'est sûr qu'il accorde plus beaucoup d'entrevues aujourd'hui. D'abord, il habite aux États-Unis, il revient au Québec de temps à autre. Fait que, il y a toujours un problème d'horaire après ça. C'est des gens qui veulent savoir exactement ces questions. Ils veulent se préparer des réponses. Puis moi, c'est pas ça que je voulais faire dans cette série-là. Moi, mon but, c'est de m'attaquer au tabou du hockey, puis d'avoir des discussions presque à bâton rompu avec les gens, là. Fait qu'il a fini par accepter, puis il a quand même été game. Du côté de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, ça a été drôlement compliqué. On arrêtait de tourner sans arrêt entre les réponses. Il était inquiet d'accorder ce genre d'entrevue-là. Il y avait toute son équipe de relations publiques qui prenait en note chaque mot, chaque virgule. Ça a été long avant même qu'il nous donne la permission de montrer l'entrevue. Ça a été plus difficile que je pensais, ce bout-là. Tu sais, moi, quelque part, je me disais, les histoires personnelles des gens, des joueurs, je peux comprendre qu'on se garde une petite gêne ou on a de la pudeur, mais je pensais pas que les dirigeants du hockey étaient à ce point fermés, paranoïaques, puis tu sais, c'est quasiment comme il se demande, mais t'es bien impertinent. Pourquoi tu veux nous parler de notre structure puis de notre façon de fonctionner? Pourquoi tu veux nous parler de la drogue dans le vestiaire? Pour eux, c'est comme, il n'y a pas de raison de discuter ou de s'ouvrir. Pour eux, la démarche journalistique, ça fait même pas partie de la réalité, là.
Mais as-tu l'impression, Marie-Claude, que veut pas, il y a comme une sorte de vieille structure de, disons l'expression, de vouloir protéger la business?
Oui. Ben, en fait, c'est que les intérêts sont divergents. Dans le sens où le hockey, c'est d'abord et avant tout une place où tu veux faire du profit, donc tu gères de l'argent. Nous, des fois, comme fans ou comme gens qui gravitent autour de ça, on leur prête des idéaux sociaux. On se dit, oh, ils font des modèles, ils nous vendent le sport, le dépassement de soi, la compétition, l'allégeance. Mais en bout de ligne, c'est une business. Fait que, tu sais, pour eux, cacher des choses, faire des affaires, tu vas pas fouiller dans les livres comptables d'une compagnie privée comme ça. Eux autres, ils voient ça un peu de même, tu sais. On fait notre affaire, puis on n'a pas de compte à rendre à personne. C'est vraiment, vraiment la philosophie. Et donc, pour eux, c'est tout à fait justifiable d'avoir un genre d'omerta ou de pas vouloir, par exemple, donner la liste des substances bannies au hockey, de pas vouloir nous expliquer comment ils testent les joueurs. Pour eux, tu sais, c'est qu'ils n'ont pas tant une si grosse responsabilité sociale que ça, parce que leur seule responsabilité, c'est de faire du spectacle puis d'engranger des revenus. Fait que c'est difficile de vendre un genre de projet comme celui-là, puis pas pour rien que ça a pris 2 ans à temps plein, là.
Comment ont été choisis les sujets? Parce que c'est l'homosexualité, l'argent, la drogue. Bon, demain, les femmes derrière les joueurs. Puis on voit Michel Pioz, l'ex de Patrick Roy, parler avec toi. C'est du sujet, ça, là. C'est pas des sujets, ouais, justement, très, très faciles à s'ouvrir, là.
Ben, moi, quand j'étais journaliste de sport, puis que, mettons, j'allais souper avec des gens, c'était tout le temps ces questions-là que les gens me posaient. Ouais. C'était comme les curiosités communes de tout le monde. Hey, c'est qu'ils sont comment, les fans des joueurs? Et comment la blonde d'un tel? Ça marche comment? Ils savent-tu que les joueurs, des fois, ils trompent sa route? Et ils font tout ça parce qu'ils ont un contrat entre eux autres. Comment ça marche? La drogue, tu sais, à un moment donné, pendant le centenaire du Canadien, il y avait des rumeurs épouvantables, les frères Costine, la mafia russe, la drogue, l'histoire en Floride, là, tu sais, de Ryan O'Byrne qui vole une sacoche. Puis, fait que c'était vraiment, moi, ce que je voyais comme des champs d'intérêt inexploré, puis en même temps, probablement les sujets les plus impertinents possibles. Puis, je me suis dit, ça fait 9 ans que je suis plus dans le sport. Si je pourrais retourner faire quelque chose, ben, il faudrait que ça soit percutant. Fait que je me suis dit, pourquoi faire semblant qu'il y a autre chose qui intéresse plus les gens que ces 4 sujets-là? Je suis partie avec ça.
Quand on regarde les journalistes justement qui sont près du Canadien de Montréal, on se pose souvent la question, pourquoi ils explorent jamais ce type de questions-là? Puis là, tu es en dehors du milieu un petit peu, donc tu t'es permis de le faire, mais est-ce que ça aurait été possible, à part Jean Tremblay qui l'a fait dans des fictions, d'aborder certains sujets avec des faux noms, mais sur des histoires réelles, personne n'ose faire ça, c'est que le Canadien est trop fort, c'est impossible d'aller là?
Ben, je pense que c'est une position inconfortable d'être journaliste de sport, parce que comme je disais tantôt, tu sais, la démarche journalistique va à l'encontre même des intérêts de la ligue que tu couvres. D'autre part, tu sais, aller dans le vestiaire, c'est un privilège que l'équipe te donne. Tu es accrédité par l'équipe que tu vas couvrir. C'est un peu comme si les parlementaires décidaient en groupe, les élus, qui allaient couvrir la politique. Ça mettrait les journalistes dans une situation un peu délicate. C'est un peu ça, le journalisme de sport. Fait que c'est pas par manque de talent, d'intérêt qu'ils le font pas. C'est que c'est particulier. Avant, les journalistes voyageaient avec l'équipe dans l'avion. Puis à un moment donné, les équipes ont dit non, on les veut plus avec nous autres. T'sais, c'est comme une relation un peu amour-haine. C'est pas une position qui est confortable. Puis en plus, mettez dans le jus quand tu couvres le hockey. Tu travailles les soirs, la fin de semaine. Il y en a des matchs, là. Je veux dire, t'es occupé, là, juste avec la colonne des statistiques, des victoires, des défaites. Fait que c'est dur de dire, je vais prendre 2 ans puis je vais me consacrer à ça à temps plein. Puis aussi, les choses ont changé. Tu sais, Jean Tremblay, c'est un gars qui délait beaucoup dans le pouvoir. Il y avait une certaine pouvoir avec sa tribune. C'était une autre époque aussi du journalisme. Aujourd'hui, de la même façon qu'on peut remplacer les joueurs à n'importe quel moment, on peut remplacer les journalistes, des blogueurs, des sites web. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est difficile d'avoir vraiment une relation de pouvoir d'égal à égal, mettons, avec les équipes de sport.
J'ai parlé, Marie-Claude, avec des gens qui ne suivent pas vraiment l'hockey, qui suivent ça, mais qui ne regardent pas les matchs, qui sont au courant que le Canadien existe, évidemment. Et plusieurs m'ont dit, moi, je ne trippe pas à regarder du sport, mais cette série-là, wow, à date, je trippe. Ça, c'est un maudit beau compliment, là.
C'est incroyable, oui, parce que ça revient à ce que je disais, c'est que quand moi, j'étais journaliste de sport, puis que je suis pas avec des gens qui n'étaient pas nécessairement des fans finis de sport, c'était les questions qui se posaient. Puis je pense que c'est des questions que même le fan finit par se poser. Comment ça marche, les profits? Les joueurs, est-ce qu'ils sont trop payés? Combien reste en pièces à un joueur une fois qu'il a payé ses impôts, son agent, puis tous les autres frais?
Ouais, ça, d'ailleurs, Simon Després, est-ce qu'il voulait nous faire pleurer ou...
Non, pas en tout, mais okay, Simon...
ça n'a pas marché.
Non, je pense pas. Mais tu sais, c'est drôle parce que je suis allée jouer au golf la semaine passée avec des gens d'affaires. Puis eux autres, ils étaient étonnés dans le sens inverse. Eux autres, ils disaient, hey, c'est drôle, hein, quand tu calcules ça sur une vie entière, c'est pas si tant d'argent que ça. Puis là, je leur ai dit, ouais, mais vous autres, vous êtes dans un autre univers, là. Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Mais tu sais, pour les gens d'affaires, ils sont surpris de voir que les joueurs, tu sais, bon, en moyenne, vont faire peut-être un 4 millions de dollars, mais c'est sur une vie complète, là, tu sais, pour un joueur moyen, évidemment, les grandes vedettes, c'est pas ça. Mais toutes ces affaires-là d'argent, c'est toujours caché, on sait rien de ça. Fait que, tu sais, l'épisode de l'argent est intéressant pour bien des gens, puis comment dire, tu sais, Simon Després, il voulait pas donner l'entrevue. Ça a été le cas de chaque Moses d'entrevue de cette série-là, là. C'était 8 cafés, puis 1000 conversations téléphoniques, puis tu sais, je peux-tu voir les questions, je peux-tu voir l'entrevue? Ben non, tu peux pas, parce que c'est pour que tu me fasses confiance. Puis, ben tu sais, Simon, il a souvent été brûlé dans des entrevues, c'est pas le gars qui s'exprime le mieux. Puis tu vois, il m'a texté la semaine dernière, puis finalement, il était content, somme toute, de l'entrevue qu'il a donnée.
Dis-moi donc, on a différentes thématiques qu'on a pu écouter, il y en a d'autres qu'on va pouvoir écouter bientôt. Ça serait-tu envisageable d'avoir une saison 2? Et quels sont les thèmes qui restent à aborder?
Il y en a beaucoup qui restent à aborder, mais tu sais, juste les jeux vidéo en ce moment, là, c'est vraiment un fléau dans la Ligue nationale de hockey.
C'est vrai, il n'y a pas un gars du Canadien apparemment qui a un petit toc sur Fortnite ou tout ça?
Oui, oui, exactement. Puis tu sais, ça se pourrait même qu'il se fasse échanger à cause de ça. Fortnite, ça pourrait être une affaire, puis il faudrait combiner ça avec le gambling. Donc, tout ce qui est numérique pour les joueurs de hockey en ce moment, c'est quand même quelque chose d'important. Puis ensuite, ça serait peut-être un sujet vraiment difficile à aborder, puis il va falloir voir comment on le fait, là. Mais à l'ère du MeToo, les inconduites sexuelles, les agressions, bien sûr, là, tu sais, mais toute cette éducation sexuelle-là des joueurs est peut-être à voir et à revoir. Et puis, tu sais, on a fait l'épisode sur l'argent, mais on a peu été en mesure de toucher à tous ceux qui ont fait faillite puis ceux qui ont perdu beaucoup. Puis on dit dans la NFL que 5 ans après la retraite, il y a 80% des joueurs qui font faillite. Fait que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de toucher à ce sujet-là. Fait que oui, c'est possible de faire une saison 2, mais tu sais, moi je me dis tout le temps, quand la première saison va être diffusée, c'est deux choses l'une. Soit que quand je prends le téléphone pour booker une entrevue, on me raccroche la ligne au nez, ou les gens du hockey vont se dire, ah, ben finalement, ça n'a pas été si pire. Je sais pas.
Ben Marie-Claude Savard, merci de nous avoir parlé. Puis surtout, félicitations. C'est moi qui aime ça, le documentaire, puis évidemment, le monde du sport. Là, c'est génial ce que tu as fait. Bravo.
Merci beaucoup.
Merci. Donc, la suite demain. Exactement. Sur les femmes des joueurs. J'ai hâte de voir ça, moi.
Je l'ai pas gagné en retard. Ben, pour être très franc, là.
En passant, c'est sur le site d'ICI Télé. Hein. Les épisodes sont là. Ça se regarde très bien si vous en avez manqué une coupe.
Mais Mike Ribeiro, c'est quelque chose, là.
C'est quelque chose,
touchant, on peut dire.
C'est l'agent Bob Pernault que j'ai trouvé dans cette série-là. Là. J'ai quasiment le goût d'y payer une bière. Ben, viens, on va jaser, là. Ça maudit que c'est plate.
Ah,
ça...
Il considère clairement comme son fils, là. Pour agir comme ça, c'est pas Mike Ribeiro qui donne une cote de ce temps-ci, là. Il y a plus de commission, là.
Non, puis la qualité des images, puis la façon que c'est tourné, il y a des silences qui parlent dans cet épisode-là, c'est génial.
On a souvent fait des... Dans le temps, il y avait deux types de documentaires. Tu avais les documentaires sur ceux qui allaient bien, c'est-à-dire la montée des prospects, des Crosby, puis tout ça. Tu as eu des dernières années, dans les 10 dernières années, des topos, ces bagarreurs, puis les blessures. Mais le reste, on ne l'abordait pas tant que ça.
Le petit documentaire Junior qui avait été fait il y a quelques années.
Junior, c'est vrai, ça avait été bon
en maudit. C'était bon, puis c'était un petit peu dans le même style.
Le film sur le Drakkar de Bécomo.
Ouais.
Ça manquait de wow un peu, par exemple.
Ouais.
Ça manquait de wow.
Il y avait des bons flashs, en tout cas.
Là-dedans, t'en as du wow. Là.
Ah non, c'est ça, effectivement. Puis quand je parlais de Simon Després tantôt, il explique qu'au bout de la ligne, une fois que tu as payé l'agent, une fois que tu as payé une espèce de coussin qui est prévu dans la convention collective avec la Ligue nationale, puis dépendamment des revenus à la fin de l'année, ils partagent ça. Une fois que tu as payé tes impôts, tout ça, il te reste 30%, puis ta femme veut tout le temps plus de vêtements, tes enfants, ça coûte cher. Puis là, tu disais, ouais, mais.
T'as les standards qui viennent avec.
Je pense qu'on n'est pas dans le même monde, mon piste.
On connaît tous des gars qui se sont ramassés dans la Ligue nationale, puis au début, ils ont peut-être commencé avec le Tercel qu'ils ont usé jusqu'à la corde au début, ou le Toyota Echo. Mais à un moment donné, ils se sont gâtés. Puis Puis là, rendu dans le gros show, ben, tu te promènes plus en tercelle.
On parle beaucoup du hockey, mais Étienne Boulay là-dedans aussi. Puis parle de son incursion dans le football professionnel. Il y a des bonnes disparités entre les vedettes et les autres joueurs.
Puis je sais pas, moi, lui, celui sur l'argent, je l'ai pas vu comme tel, mais tu peux mettre en opposition ceux qui ont eu des après-carrières, qui ont placé leurs argent, puis sont peut-être plus riches dans leurs après-carrières que durant leur carrière.
Serge Chavard.
Puis tu peux virer ça de bord avec le gars qui s'appelait le joueur, je cherchais le nom tantôt, Joe Murphy, qui est rendu un itinérant fucker red, là. Qui vit au crochet de la vie au fur et à mesure. Là.
Plus près de chez nous, c'est pas un itinérant, mais Donald Brashear.
Ben, Donald Brashear est un bon cas d'histoire humaine avec des beaux et des mauvais côtés. Là.
Ah, exactement. Puis tu vois qu'il y en a qui sont plus articulés que d'autres. Puis dans le reportage, c'est bien démontré. Vincent Danfous est là-dedans. T'as aussi Muir, qui est l'ancien.
Brian Muir, ouais.
Ouais,
ancien défenseur.
Des Capitals, qui est rendu planificateur financier, puis qui aide des joueurs, justement, à avoir un après-carrière, comme l'agent de joueur Walsh également, qui est là-dedans. Allez voir ça, c'est sur Internet. Puis. Demain, la diffusion en direct.
20h demain, sur ICI Télé.
Les femmes de joueurs, avec Michel Pioz, l'ancienne femme de Patrick Roy, qui aborde la question de Mathieu Schneider.
C'était quoi la question déjà?
Tu sais pas. Ou tu fais l'innocent?
Je fais l'innocent.
OK, merci.
On vient dans quelques minutes. 95.7 Geek Saguenay. Midi pile.